Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu as fait durant ce temps louange dans les cœurs. Merci au groupe de louange de La Rochette. C'était vraiment un temps magnifique. Au fond, qu'est-ce que c'est que recevoir le Père? C'est quoi recevoir le Père? Oui, recevoir le Père, c'est recevoir la tendresse du Père. C'est recevoir un papa, ce qui est particulièrement important, comme Philippe l'a dit, pour ceux qui n'ont pas pu venir autant qu'on aurait souhaité de la part des parents terrestres. Mais recevoir un père, c'est aussi recevoir celui qui te dit, qui te dirige dans la vie. C'est aussi recevoir celui qui te dit, là, c'est le chemin où tu peux marcher. C'est recevoir celui qui te dit, ça ne se fait pas. Ça se fait. C'est recevoir celui qui aussi te corrige quand tu en as besoin. C'est se recevoir celui qui juge quand c'est nécessaire par amour pour nous ramener vers la vie. Recevoir le Père, c'est recevoir tout cela. Amen. Un homme à la fois visionnaire et conscient du sens de l'histoire. Un homme qui se trouve au cœur du projet de Dieu parce qu'il a cette capacité de voir la portée prophétique de murs et de maisons en ruine. Aujourd'hui, je prie que Dieu nous donne de tels hommes et de telles femmes, porteurs de vision pour la cité, conscients du long terme, qui aiment et connaissent leur pays, inspirés par l'Esprit de Dieu pour un réveil. Ces lignes sont celles d'Olivier Favre, qui est pasteur à l'Église apostolique évangélique de Neuchâtel, et par lesquelles il commence cette première méditation de cette semaine universelle de prière dans laquelle le réseau évangélique suisse nous engage en tant qu'Église dans toute la Suisse romande et allemandique, enfin toute la, et italienne, et enfin toute la Suisse, dans laquelle donc nous entrons aujourd'hui et qui s'intitule Espoir pour la Suisse. Et l'homme dont il est question ici, vous l'avez entendu ce matin, c'est Néhémie. Néhémie qui est un juif au service de l'empereur babylonien au 5e siècle avant Jésus-Christ, à un moment où, alors que les Juifs avaient été en exil en Babylone, ils ont pu retourner quelques années avant d'ailleurs où on entend parler de Néhémie, pour reconstruire Jérusalem, pour déjà reconstruire le temple et ensuite reconstruire les murailles et les maisons de Jérusalem. Donc après leur exil en Perse. Alors par ses propos, Olivier Favre décrit Néhémie en tant qu'homme prophétique. Prophétique. C'est-à-dire, prophétique, c'est celui qui porte, qui est porte-parole de Dieu, qui la porte avec tout son être, qui est porte-parole de Dieu et de l'annonce de son salut, par tout son être, par ses paroles, ses actes, ses comportements, son style de vie, toute sa vie. Et Olivier prie que d'autres hommes et femmes tels que Néhémie se lèvent parmi le peuple de Dieu en Suisse. Mais être prophétique, n'est-ce pas l'appel de toute l'Église, de tous les membres de l'Église, chacun à sa mesure. À Josué, un jour, qui s'indigne devant Moïse que d'autres hommes que lui prophétisent parmi le peuple d'Israël, Moïse répond: Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Alors, qu'est-ce qu'être prophétique? On va lire ensemble le premier chapitre du livre de Néhémie dans la Bible pour voir ce que, à partir de Néhémie, cela signifie. Durant le mois de Kislev, ou Kislev, alors c'est en novembre à peu près, la 20e année du règne d'Artaxerxès, alors que je me trouvais à Suse, la capitale, Hanani, l'un de mes frères, est arrivé avec quelques hommes de Juda. Je les ai interrogés au sujet des Juifs rescapés de la déportation et au sujet de Jérusalem. Ils m'ont répondu, les rescapés de la déportation se retrouvent là dans la province au comble du malheur et du désespoir. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. À cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré et j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. J'ai dit, Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements, je t'en prie, prête-moi une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment. Jour et nuit, j'intercède pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant leurs péchés, ceux que nous avons commis contre toi. Oui, ma famille et moi, nous avons péché. C'est certain, nous nous sommes mal comportés envers toi, nous n'avons pas respecté les commandements, les prescriptions et les règles que tu avais données à ton serviteur Moïse. Souviens-toi donc de la parole que tu as ordonnée à ton serviteur Moïse de prononcer. Si vous vous montrez infidèle, je vous disperserai moi-même parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements et les mettez en pratique, alors, même si vous êtes exilés à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, ceux que tu as rachetés par ta grande puissance et ta force. Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Donne du succès à la démarche de ton serviteur, permets-lui de gagner la compassion de cet homme. Et cet homme, c'est le roi, c'est l'empereur de Babylone. J'étais le responsable des boissons du roi, dit Néhémie. Nous pouvons relever dans ce premier chapitre, chez Néhémie, trois manières d'être prophétique. En tout cas, moi, j'ai relevé trois manières d'être prophétique. Trois manières dans lesquelles nous sommes invités à entrer en tant qu'Église. Trois manières que nous sommes invités à adopter, encouragés à adopter par la parole. Merci. Premièrement, Néhémie est prophétique en considérant l'annonce du salut. Il s'enquiert auprès de son frère Hanani, vivant à Jérusalem, de ce que deviennent les Juifs rescapés de l'exil. Ceux-ci sont au comble du malheur et du désespoir. Ils sont dans la détresse, traités avec mépris. Et la muraille de Jérusalem a des brèches, elle est en ruine. Et consterné, Néhémie s'assied, pleure et crie à Dieu. Et nous voyons au travers de cela à quel point l'annonce du salut pour Néhémie est importante. À quel point il se sent concerné, parce qu'il sait que si le peuple juif ne se développe pas à nouveau sur la terre d'Israël et ne rétablit pas le culte de l'Éternel, c'est l'histoire du salut qui s'arrête. Qui s'arrête pour Israël et qui s'arrête pour l'humanité. Et Néhémie est conscient de cela. Il est conscient de cela parce qu'il partage le cœur de Dieu. Il partage le cœur de Dieu pour le salut de l'humanité. Et on voit que ce n'est pas seulement une affaire de personne. Ça ne se limite pas à sa personne. C'est une affaire de famille. C'est familial. Le nom du père de Néhémie, Rakalia, ça signifie celui que l'Éternel éclaire. Dans quelle mesure Rakalia a éclairé ses enfants, Néhémie, mais aussi son frère Hanani, sur l'histoire, l'importance, le sens, le besoin du salut pour chaque être humain. quand on voit que non seulement Néhémie se sent concerné, mais aussi Hanani. Hanani qui fait partie des Juifs qui sont partis quand ils ont pu y être autorisés de Perse pour aller reconstruire Jérusalem. Il n'y avait pas tant de Juifs que ça qui sont partis. La plupart sont restés à Babylone. En fait, c'était une poignée qui sont partis sur le nombre qu'il y avait au total. Donc il fallait le vouloir pour y retourner. Donc Hanani était aussi impliqué dans cette reconstruction. Il était, pour lui, l'annonce du salut était aussi importante. Et pour nous, quelle importance revêt la transmission de la foi et l'annonce du salut à toutes les personnes qui nous entourent, mais aussi en particulier aux enfants, à nos jeunes. Quelle importance revêt cette transmission de la foi et de l'histoire du salut aux jeunes générations? Pour les parents chrétiens, notamment, c'est une grande responsabilité, autant qu'un défi. On sait qu'aussi, au moment de l'adolescence, c'est des moments, en tant que parents chrétiens, où vous avez des craintes, quoi. Vous avez des craintes, vous avez des peurs que votre enfant ne suive pas le Seigneur quand il a grandi dans un foyer chrétien. Et ça peut entacher, mettre votre confiance en Dieu. Dans quelle mesure aussi l'Église, elle soutient les parents chrétiens dans cette responsabilité, de manière pertinente? Dans quelle mesure nous nous préoccupons des jeunes générations dans l'Église et aussi en dehors, et nous manifestons notre intérêt pour eux, pour leur salut? Cette préoccupation, l'annonce du salut par nos paroles, nos actes, nos comportements, toute notre vie, notamment pour les jeunes, mais voilà, pour tout le monde, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous jusqu'au retour imminent de Jésus-Christ. Voilà la première manière que nous, Néhémie, a d'être prophétique et que nous pouvons être prophétiques. C'est en prenant vraiment, en nous sentant vraiment concernés, en partageant le cœur de Dieu pour le salut. La deuxième manière que Néhémie a d'être prophétique, c'est en considérant son propre cœur devant Dieu avant celui de l'autre. Ce qui est étonnant chez Néhémie quand il entend ces nouvelles de ses frères juifs, c'est sa réaction. Il ne se met pas, par exemple, à prier contre les Samaritains et les étrangers qui mettent des bâtons dans les roues aux Juifs pour la reconstruction des murailles. Parce que depuis que les Juifs ont refusé l'aide des Samaritains pour la reconstruction du temple, les Samaritains, ben voilà, c'était à l'origine, ils ne sont pas juifs, c'était un mélange de juifs et d'autres peuplades qui avaient été exilés par Babylone et du coup qui avaient adopté le culte de l'Éternel à leur manière, mais en tout cas au début, a priori, c'était assez semblable à ce qui se vivait dans le peuple juif. Et les Juifs ont refusé leur aide. Et à partir de là, les Samaritains ont été des adversaires pour la reconstruction de Jérusalem. Néhémie n'entre pas dans une logique de haine et de non-pardon. Dernièrement, avec Estelle, nous avons visionné un film qui parle de cette logique de haine et de non-pardon, qui s'appelle L'Insulte. Ça raconte un procès entre un chrétien libanais et un palestinien réfugié au Liban. Le palestinien est un chef de travaux pour une entreprise libanaise et donc il vient pour réparer une gouttière, enfin pour réparer un quartier où vivent notamment, enfin des chrétiens libanais, notamment ce chrétien. Et puis le chrétien libanais vient casser la gouttière et là le palestinien se met à l'insulter. Du coup le chrétien demande des excuses devant à ce palestinien et devant son patron, mais le palestinien s'y refuse. Alors il le traîne en justice, il porte plainte et le traîne en justice. Et le procès va tellement loin que du coup, ça déclenche des émeutes entre les Palestiniens réfugiés au Liban et les chrétiens. Et finalement, tout au long du procès, on arrive à comprendre que la haine qui est dans le cœur de ce chrétien, dont le village a été massacré quand il avait 6 ans par des Palestiniens, dont il a pu réchapper de ce massacre avec son père, mais le reste de la famille a été massacré. C'est quelque chose qui s'est passé vraiment. Donc l'histoire que je vous raconte, c'est une fiction, mais ce massacre, c'est le village de Darmour, au Liban. Et l'histoire nous apprend que ce massacre était en représailles à un massacre de Palestiniens par des chrétiens, qui était en représailles à un massacre de chrétiens par des Palestiniens. Et on voit la logique, l'enchaînement de la haine, de la violence, du rejet et du non-pardon. Et Néhémie ne rentre pas là-dedans. Néhémie ne laisse pas la haine qu'il pourrait avoir, parce qu'après, quand on lit l'Évangile aussi, on voit qu'il y avait vraiment la haine entre les Juifs et les Samaritains. Il ne laisse pas la haine mettre en ruine les murailles de la grâce dans son cœur. Parce que ces murailles de Jérusalem, prophétiquement, il s'agit du cœur que Dieu reconstruit en nous, selon Jésus-Christ. Ce sont ça, ces murailles, spirituellement. Néhémie, de même, ne se met pas à dire à Hanani et aux Juifs rescapés, « Mais vous ne faites pas ce qu'il faut. Tout ça, c'est de votre faute. » Il ne laisse pas la critique, le jugement de l'autre, l'orgueil qui dit « Je n'y suis pour rien » dans quelque chose qui concerne tous et où tout le monde est responsable. Il ne laisse pas tout cela mettre en ruine les murailles de la repentance en lui. Au contraire de tout cela, qu'est-ce que fait Néhémie en tant qu'homme prophétique? Il se place devant Dieu. Et il considère son propre cœur, sa propre désobéissance, la désobéissance de sa famille et celle de son peuple envers Dieu, à qui il demande pardon pour tout cela. Il revient à la parole de Dieu qui désigne la véritable cause de cet état de ruine des murailles. C'est la désobéissance du peuple dès la sortie d'Égypte et dans le désert et tout au long de leur vie sur la terre d'Israël jusqu'à l'exil qui est la conséquence de leur infidélité, qui est la conséquence sur laquelle Dieu les avait avertis. Si vous n'appliquez pas mes commandements, si vous ne revenez pas à moi, au bout d'un moment, je vous disperserai dans les nations. Et c'est ce que rappelle Néhémie dans sa prière. Cette désobéissance, c'est quoi? Finalement, cette désobéissance, c'est celle de l'humanité envers Dieu. Cette désobéissance, c'est celle de nous tous. Et c'est cette désobéissance de notre cœur qui est responsable de tous nos maux, de tous nos malheurs, de ce qui ne va pas en nous, entre nous. Alors, où en sont, en nous, les murailles de la grâce, les murailles du pardon, de l'hospitalité, de l'accueil de l'autre? Avant de parler de l'accueil de l'étranger, du réfugié, du migrant en Suisse, comment déjà moi est-ce que j'accueille l'étranger? Est-ce que je vais vers lui? Comment est-ce que moi j'accueille celui qui est tout simplement différent? Est-ce que je vais vers lui? Celui qui est d'une autre génération? Ou est-ce que les jeunes restent entre jeunes? Les âgés restent entre âgés? Dans quelle mesure nous, dans cette église par exemple, nous pratiquons l'hospitalité entre nous? Nous nous accueillons les uns les autres? Des personnes avec qui on n'a pas forcément d'affinité, qui sont de cultures différentes, qui sont de nations différentes, qui sont d'un niveau intellectuel différent, d'un niveau social différent, d'une autre génération. Dans quelle mesure nous invitons à notre table? Nous nous invitons nous-mêmes à notre table, nous pratiquons cet accueil qui est l'inverse de tout ce que j'ai pu dire avant concernant dans cet exemple et puis dans ce qui aurait pu se passer pour Néhémie et qu'il a refusé. Est-ce que nous laissons la haine, le rejet, l'indifférence, le légalisme mettre en ruine ces murailles de Dieu? Et où en sont les murailles de la repentance et de la considération de la sainteté de Dieu, de la considération pour sa création, quand on voit l'exploitation de la terre, pour la dignité de l'être humain, quand on voit l'exploitation des êtres humains? Est-ce que nous laissons la légèreté morale, l'immoralité sexuelle, le désir de posséder égoïstement, l'orgueil, la critique, le jugement de l'autre, mettre tout cela en ruine? Avant de regarder aux murailles des principes de Dieu qui sont bafoués autour de nous, dans notre quartier, dans notre ville, dans notre pays, est-ce que nous regardons l'état de ces murailles dans notre cœur? Et c'est ce que fait Néhémie. Comment est-ce que l'autre peut se remettre en cause si moi-même je ne le fais pas? La remise en cause devant Dieu de l'autre, la repentance de l'autre, elle dépendra aussi de ma propre remise en cause devant Dieu, de ma propre repentance. Bien sûr, chacun est libre, chacun a sa responsabilité, mais nous sommes liés aussi les uns aux autres, nous sommes en relation et nous avons une responsabilité. Troisièmement, Néhémie est prophétique. Ah, j'ai oublié de vous mettre le deuxième. Et voilà le troisième. Néhémie est prophétique en considérant d'abord l'action de Dieu avant sa propre action, pour inspirer sa propre action, l'action de Dieu dans cette reconstruction. Néhémie termine ainsi sa prière. « Je t'en prie, permets à ton serviteur de réussir aujourd'hui de gagner la compassion de cet homme. » Donc, il parle de l'empereur qu'il sert et qui a droit de vie ou de mort sur lui. Néhémie était échanson du roi, c'est-à-dire qu'il buvait les breuvages qui étaient destinés à l'empereur. À ce moment-là, les attentats se commettaient beaucoup par empoisonnement. Et donc, il gardait la vie de l'empereur. C'est dire la relation de confiance qu'il y avait de la part de l'empereur vers Néhémie et qu'il ne pouvait se passer de lui. Comment est-ce que Néhémie, qui était désireux de participer activement à la reconstruction de Jérusalem, allait pouvoir être libéré par l'empereur? Et il sait que tout ça, ben ça dépend de Dieu. Tout ça, ça dépend de Dieu. C'est au-delà de lui. Et comment est-ce qu'il agit, Néhémie? À genoux. C'est à genoux. C'est dans la prière, voire le jeûne. C'est dans la prière et le jeûne pour Néhémie, c'est sûr, qu'il entre dans cette reconstruction en demandant déjà à Dieu que l'empereur prête attention à ce que Néhémie vit. Avant même de dire qu'il l'envoie, qu'il prête attention, qu'il ait de la compassion. Dans ce pays, nous vivons diverses problématiques. Dans la ville où nous sommes, nous vivons diverses problématiques. Dans le quartier où nous sommes, dans notre vie. Dans l'église, nous vivons diverses problématiques. Et comment est-ce que nous réagissons? Est-ce que nous réagissons par la plainte, par le découragement, par la critique? J'en ai déjà parlé. Mais si nous ne tombons pas dans ce travers, alors nous pouvons aussi tomber dans le travers d'une recherche de solutions humaines. Moi, quand je vois les problématiques dans l'église, je vois aussi mon cœur qui a tendance à, voilà, je vais régler la chose avec mes petits bras. C'est humain. C'est humain. Qu'est-ce qui se serait passé si Néhémie avait décidé de s'adresser à l'empereur pour lui et son peuple sans avoir eu le feu vert de Dieu? Au mieux, il serait resté à Babylone. Au pire, l'empereur se serait méfié. Il aurait pu perdre la vie. Parce qu'on rigolait pas à cette époque sur des choses comme ça. C'est d'abord à genoux, dans la prière, voir le jeûne, que je viens avec Dieu traiter ces problématiques face auxquelles je suis, en cherchant son action à lui. Lui, il sait, il a son plan d'action. Et c'est à genoux que nous venons dans cette église voir quel est le plan de Dieu pour régler telle et telle et telle et telle problématique. C'est seulement dans la considération de la souveraineté de Dieu sur l'histoire de ma vie, sur l'histoire de ma ville, sur l'histoire de mon pays, sur l'histoire de ce monde, que les choses peuvent changer selon le plan d'action de Dieu. Et que nous pouvons voir les murailles des principes de vie de Dieu être préservés dans nos vies, sinon être reconstruits. Alors, soyons prophétiques à la manière de Néhémie, soyons prophétiques en considérant l'annonce du salut, en partageant le cœur de Dieu pour le salut. Soyons prophétiques en considérant notre propre cœur avant de considérer le cœur de l'autre, le défaut de l'autre. Soyons prophétiques en considérant l'action de Dieu pour inspirer notre marche dans cette reconstruction et cette préservation des murailles de Dieu qui vise à reconstruire quoi? Quel cœur? Les murailles de la paix de Dieu, les murailles de la joie de Dieu, les murailles de la justice de Dieu. Tout ce qu'il fait, le cœur de Jésus-Christ. C'est ce cœur-là que Dieu veut reconstruire en nous. C'est pour reconstruire ce cœur en nous que Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Et c'est à partir de ce cœur-là que Dieu vient toucher un quartier, une ville, un pays, une nation. Et bien sûr, on voit des choses qui se délitent, qui se déconstruisent. Je peux vous dire que, au fur et à mesure que le peuple de Dieu va grandir dans ses principes de vie de Dieu, les personnes dont le cœur crie vont venir chercher cela. Parce qu'on a tous besoin d'un père avec un grand P. On a tous besoin du père, tel que j'en ai parlé au début. Tous. Amen. On va prier. Ouais, Seigneur, tu viens nous interpeller ce matin sur le cœur que tu veux reconstruire en chacun de nous, sur cette attitude de Néhémie qui reflète ton attitude à toi, Jésus-Christ, qui reflète ton cœur à toi. Et Seigneur, j'appelle ce cœur dans nos vies. J'appelle ce cœur dans nos cœurs à chacun ici maintenant. J'appelle ce cœur dans le cœur de l'Église aussi. J'appelle ce cœur dans ce canton, dans les églises de ce canton, de ce pays. Seigneur, je te remercie pour la manière dont tu vas toucher chacun. Donc tu vas continuer de toucher chacun au-delà de ce dimanche, au-delà de ce message. Je veux tout simplement laisser maintenant ton Saint-Esprit agir. Et je te remets la manière dont va se poursuivre la suite et la fin de ce culte, le moment de Sainte-Cène, le moment aussi d'intercession que nous allons avoir. Seigneur, que tu nous conduises à partir de ce que ta parole est en train de faire en nous. Je te remercie parce que tu es en train de rejoindre chacun, celui qui ne te connaît pas, qui n'a pas fait encore de démarche vers toi, comme celui qui te connaît déjà. Merci de nous révéler le Père que tu es et ta volonté. Amen.